France Culture.
C'est une deuxième bibliothèque, je sais pas si vous vous souvenez, on était venu faire il y a...
Mais je me souviens très bien.
10 ans, 15 ans, 10 ans, 12 ans.
Il y a 15 ans. Hein.
France Culture.
Regardez comme on est frais 15 ans après.
Rien n'a bougé.
Rien n'a bougé.
Le Book Club.
Si, j'espère que plein de trucs ont bougé, sinon c'est triste.
Dans la bibliothèque de Nicolas Bouchaud.
Non mais pas physiquement trop.
Vous savez en tout cas.
Bah vous aussi.
Bon, cool.
Marie Richeux.
En 2017, au moment de porter sur scène Maîtres anciens, le roman de Thomas Bernhard, vous décidiez de commencer par son milieu, Nicolas Bouchaud. Commencer par le milieu du roman, écriviez-vous plus tard, c'est une manière de ne pas commencer et sans doute aussi une promesse de ne jamais finir. Le choix de faire entendre une voix, faire entendre une pensée qui se cherche et n'est subordonnée à aucune fin, je vous cite encore. Ce travail de faire entendre des textes, vous le faites depuis longtemps, sous différentes formes. Nicolas Bouchaud aussi, n'avons-nous aucun doute sur la place qu'occupe la lecture dans votre vie, elle apparaît d'emblée vitale, centrale. Les portraits que vous consacre la presse n'oublient jamais de mentionner que vous avez un ou deux livres dans la poche. Ce que nous voulons découvrir avec vous aujourd'hui, c'est le genre de lecteur que vous êtes, ce que ces livres dans la poche ou dans la maison ont fait à votre existence et ce que ce partage généreux, sérieux et amical des textes avec le public produit encore et toujours en vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de déballer votre bibliothèque pour le Book Up de France Culture et bienvenue chez vous, chez nous.
Merci.
Il y a des livres sur la table, des livres ouverts, des livres que vous avez apportés parce qu'on demande à nos invités de choisir 4 ou 5 livres étapes, on y viendra tout à l'heure. Mais puisque nous ne sommes pas dans votre bibliothèque mais dans notre studio, il vous revient de la décrire, cette bibliothèque. Elle ressemble à quoi ?
Il y a plusieurs bibliothèques en réalité. Il y a plusieurs morceaux en fait de bibliothèque. Il y en a une quand vous rentrez, quand vous arrivez chez moi, il y en a une grande dans le couloir, dans laquelle il y a plutôt des romans, mais qui peuvent parfois cohabiter avec d'autres types de livres, puisque parfois on aime bien un livre, alors on le met à côté d'un autre. Mmh. Bon, ça c'est un autre classement qui arrive après, mais disons que quand j'ai emménagé, quand nous avons emménagé dans cet appartement, j'ai essayé de faire les choses bien et donc il y a les romans dans le couloir. Il y a ensuite dans le salon une bibliothèque poésie et histoire. Et puis toujours dans le salon une autre bibliothèque de romans. Et toujours dans le salon une grande bibliothèque, je dirais. Philo, sciences humaines.
Il y a des livres, quoi, dans la maison.
Ah ça, il y a des livres, ouais. Ouais, ouais. J'essaie plutôt d'en enlever que d'en remettre, hein, là.
Je vous ai coupé, il y a peut-être d'autres bibliothèques encore.
Alors, il y en a une toute petite dans la chambre, où je mets des livres dont j'ai besoin ou que j'ai envie de lire assez vite ou de reparcourir, et qui en général sont liés au travail. Et puis, il y a une bibliothèque totalement cachée dans une toute petite pièce, une sorte de buanderie. Et là, vous avez tout le théâtre.
Marrant. Bizarre. Pour un homme de théâtre.
C'est bizarre, oui, oui.
Ouais. Mais c'est voulu comme tel ? C'est genre, je ne veux pas te voir travailler ?
Et c'est bizarre. Quand on a tout réorganisé, les livres dans la maison, ouais, le théâtre s'est retrouvé là, un peu dans un coin.
Mais, est-ce que vous en lisez du théâtre ?
Ah oui, j'en lis, oui, ouais. Je lis des pièces, je lis aussi des ouvrages
sur le théâtre.
J'ai lu, par exemple, récemment un très beau livre de Laurent Chable, qui a fondé le théâtre du Radeau avec François Tanguy. Et puis le livre de Valérie Dréville aussi, qui est paru chez Actes Sud. Mmh. Donc, ouais, le théâtre, je lis pas mal, ouais.
Alors, qu'est-ce que ça dit que ce soit caché?
Eh ben, ça me fait penser à ce que dit Hofmannsthal sur le poète, sur la place du poète. Je crois qu'il dit quelque chose comme « Le poète, c'est celui qui vit en dessous de l'escalier, dans un petit coin en dessous de l'escalier. » C'est assez beau, ça. Mmh. Donc, je pense que c'est pas parce qu'il est caché ou un peu relégué...
Que c'est pas une bonne place pour
que
lui.
Que c'est pas une bonne place et qu'il est pas important.
Mmh. Dans les mots que je citais en introduction, il y a certains mots que j'ai empruntés à Sauver le moment, votre propre livre, Nicolas Bouchaud, paru aux éditions Actes Sud. On y reviendra parce que c'est aussi une façon de commenter votre place de lecteur, votre façon de lire les textes, de les jouer évidemment, de les dire, mais aussi de les lire. Et il y a un passage entre surtout, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le moment où vous parlez des mots de Shakespeare, le roi Lear. Vous êtes dans un moment très compliqué, une période de dépression. Vous êtes sur scène, vous dites les mots comme vous pouvez. Puis vous sortez de scène, vous êtes dans la loge, vous vous démaquillez et il y a un répit. Et il y a un deuxième corps. Vous parlez des mots de Shakespeare comme un deuxième corps, plus valeureux, plus solide que le vôtre. Et un peu plus tôt dans le texte, vous parlez des mots de Shakespeare comme étant certifs. Il y a une matérialité des mots qui apparaissent dans ce passage-là, Nicolas Bouchaud, qui disent combien est-ce qu'ils peuvent être en nous, ces mots, ces textes, et agir, voilà, en l'occurrence, comme un deuxième corps. Je me suis dit que c'était une bonne manière pour commencer, désolé, c'est peut-être un moment douloureux, mais je trouve ça hyper beau de commencer, voilà, pour parler de vous en tant que lecteur, par ce passage-là.
Alors, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est très bien de parler de ça parce que ça veut dire c'est cette expérience qu'on fait quand on joue sur scène que ce qu'on appelle d'ailleurs la poésie et qu'on pourrait croire de premier abord comme quelque chose d'un peu qui émane de la personne qui écrit, qui est une chose un peu comme ça. Mental, imaginaire, mais quand vous êtes acteur ou actrice, vous devez incarner ça sur une scène. Et l'incarner, ça veut dire qu'il faut que l'écriture passe par votre corps. Et pour qu'elle passe par votre corps, il faut la laisser agir sur votre corps. Et c'est un exercice qui est pas du tout intellectuel pour le coup, mais comment on matérialise une écriture, comment on donne du corps à une écriture. Et Shakespeare, c'est un très bon exemple pour ça, parce qu'on trouve tout le temps dans les pièces de Shakespeare des formules extrêmement mystérieuses, comme par exemple dans Le Roi Lear, puisque vous parliez de cette pièce, Le Roi Lear dit à la fin à Cordélia « et nous serons comme des espions de Dieu ». Alors c'est comme des petites choses poétiques dont on ne sait pas très bien, dont on ne comprend pas tout de suite le sens. Et pourtant, ces choses-là, il faut que sur un plateau, vous les incarniez. Ça veut dire que la poésie et l'écriture en général, c'est pas du tout, c'est quelque chose de très concret et le fait de le jouer vous fait comprendre cette chose-là. C'est-à-dire, vous fait comprendre que c'est pas, comme on dit, que des mots.
Voilà. Ou plutôt que ce que des mots-là a une matérialité, ça fait quelque chose au réel. De la même manière, quand vous racontez l'expérience de commencer par le milieu, ou pas tout à fait au début en tout cas, des maîtres anciens de Thomas Bernhardt, dans l'idée que bien au-delà de faire entendre un roman sur scène ou de porter un roman sur scène, vous voulez montrer ou proposer l'expérience de qu'est-ce que ça fait la langue de Bernhardt. Maintenant, tout de suite, là, à votre corps, aux gens qui sont là pour l'entendre.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ça parle. Quelque chose parle. Et comment est-ce que sur une scène, vous ouvrez d'abord un espace pour que cette parole soit entendue et entendable par les spectateurs. Si vous la truffez d'intention et de sentimentalité ou de c'est foutu. Et donc il faut essayer de comprendre le mécanisme interne de la parole et comment elle démarre, comment elle se la parole c'est du rythme, la parole c'est des intensités différentes, c'est des rythmes, des contre-rythmes, des choses mineures puis des choses majeures, c'est tout ça une écriture. C'est très matériel, en fait.
Comment est-ce que vous comprenez, ou à partir de quand vous comprenez ça, Nicolas Bouchaud ?
En faisant, en jouant, et au fur et à mesure des années, je le lirai tout à l'heure, mais par exemple, la poésie de Paul Celan, qui est une poésie qui n'est pas du tout figurative. J'ai fait l'expérience de dire un très long poème qui s'appelle Strait de Paul Celan sur scène, donc devant des gens, en représentation, c'est très intéressant. Parce que au bout de deux phrases, tout le monde a compris qu'il ne comprendrait rien.
Mais donc, il va se passer autre chose.
Exactement. Et donc, c'est là où vous, comme acteur, les armes que vous avez, c'est l'adresse, c'est le souffle, c'est... comme on joue avec l'écoute de la salle, enfin, c'est que des choses qui ne sont pas de l'ordre du sens du texte, par exemple.
Mais ça veut dire que le lecteur de roman que vous êtes, ou de poème que vous êtes, Nicolas Bouchaud, il est directement, depuis le début, informé par celui qui joue au théâtre ? Ça veut dire que le lecteur que vous êtes devenu...
Non, au début, mes premières lectures... Moi, je suis un fou de récits et de...
Voilà, vous n'êtes pas encore en train de lire Paul Celan sur scène.
Non, pas du tout, du tout, du tout. Non, ça, je le découvre plus tard, quand je commence à faire du théâtre, avec Gabili notamment. Mais au début, les lectures qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais adolescent, c'est vraiment les grands romans du 19e. Hein. C'est Balzac, j'avais une passion pour Balzac, l'histoire des 13 notamment. C'est Flaubert, l'éducation sentimentale, et puis aussi Dumas, et puis tout de suite après Proust. C'est vraiment des...
On y raconte des histoires, même si chez Proust il se passe autre chose que raconter des histoires, mais vous êtes attaché à ça.
Tout à fait, mais... On parlait de Shakespeare tout à l'heure, mais on peut, si vous voulez, dans un même spectacle, raconter une histoire, celle du roi Lear par exemple, ou celle d'Othello, tout en comprenant qu'il se passe des choses avec le texte qui sont un peu chamaniques, quoi, qui sont un peu autre chose que simplement conduire une logique de récit de A jusqu'à Z. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de la poésie, c'est une chose très concrète. Quand on la joue, on est obligé d'aller vers une chose concrète. On peut pas la laisser comme ça dans les airs.
C'est sous l'escalier.
C'est sous l'escalier, absolument.
On a bien compris qu'il y avait donc beaucoup de livres chez vous, Nicolas Bouchaud. Ça veut dire que, ou qu'est-ce que ça veut dire de la place qu'occupe la lecture dans votre vie aujourd'hui ?
La même qu'il y a 10 ans et la même qu'il y a 20 ans, je pense.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est toujours un grand plaisir de la vie. Comme je voyage beaucoup et que je bouge beaucoup, j'ai ce temps du voyage, du train pour lire. Donc ça, c'est très agréable.
Donc les articles qui vous montrent un livre dans la poche ne mentent pas ?
Non, pas vraiment, non. Et souvent, je fais cette chose, c'est-à-dire que ça m'arrive quand même d'aller d'un endroit à l'autre, dans Paris, de prendre le métro, et au dernier moment, de prendre un livre, mais pour relire 10 lignes, en fait. Les livres que j'ai dans ma poche, c'est souvent des livres que j'ai déjà lus, mais dont j'ai envie de relire certains passages. Dans la poche, c'est ça.
Dans la poche, c'est ça. Vous racontez, je crois que c'est aussi dans ce livre-là où vous racontez un jour où Michel Butel vous met un livre dans la poche. C'est un livre de John Berger qui s'appelle Le métier idéal. Est-ce que vous vous laissez mettre des livres facilement dans la poche, Nicolas Bouchaud ?
Facilement et volontiers.
Vous laissez indiquer des lectures ?
Ah ouais, volontiers. Oui, j'aime beaucoup ça. Oui. Vous voyez, ce jour-là, Michel, il m'a donné ce livre et puis j'en ai fait un spectacle. Le hasard, comme ça, les choses qui sont pas prévues, c'est toujours très bien, oui.
On va y venir en rentrant dans les choix de livres étapes que vous avez fait pour nous aujourd'hui, mais quand même, à les découvrir, on se dit que c'est une affaire sérieuse. Je voudrais qu'on s'entende là, pas au sens de l'esprit de sérieux, mais au sens de l'étude, quoi. C'est que j'ai quand même l'impression, et d'ailleurs, je suis entrée dans le studio et il y avait des cahiers noircis de votre écriture partout, quand même, en se penchant sur les textes que vous avez choisis, on sent que c'est un lieu de pensée, que c'est un lieu de connaissance du monde, d'essayer de l'appréhender. Mais je ne veux pas qu'on entende ça que comme une affaire sérieuse au sens esprit de sérieux, mais aussi comme un engagement de votre part.
Oui,
je ne sais pas si je suis claire, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je vois très bien ce que vous
voulez
dire.
Vous êtes au boulot, quoi. Sens du terme.
Oui, il y a quelque chose de l'ordre. Oui.
Puis, je m'embrouille.
Non, pas du tout, vous n'embrouillez pas, je vois très bien ce que vous voulez dire. Je vois d'autant plus que quand j'ai finalisé la liste pour votre émission, je me suis dit, oula, moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Mm. Parce qu'on pense à... Il y a plein de choses que j'aurais pu lire. Mm. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Dans les livres étapes, il y a plein de livres que j'ai beaucoup aimés et pourtant que j'ai pas amené là aujourd'hui. Donc ça s'est fait un peu comme ça, par association d'idées. Et par association d'idées, effectivement, les extraits que je vais lire là, je pense répondre les uns les autres, mais sans doute parce que c'est des questions avec lesquels je vis depuis 4 ou 5 ans, en fait. Donc c'est pour ça que ça revient.
Et alors, vous diriez que si ça se répond les uns les autres, est-ce que ça répond à des grandes questions? Ce serait quoi les grandes questions pour annoncer les extraits qu'on va lire ensemble, Nicolas Bouchaud?
Oh ben, ça c'est difficile à dire. Hein.
Ok, c'est des grandes questions qui sont là, mais qui sont difficiles à dire.
Non, je dis des questions pour moi, c'est-à-dire, par exemple, le Méridien de Paul Celan, ça a vraiment été. Ça, je peux dire que c'est un livre étape, complètement. C'est un livre qui m'a vraiment modifié, qui m'a fait changer. D'ailleurs, je comprenais ce que Celan dit. En comprenant ce que Celan disait sur la poésie, je comprenais même des choses pour mon métier. Tout ce dont on a parlé sur qu'est-ce que c'est qu'un texte et comment c'est une chose en réalité concrète, comment il faut la respirer pour la comprendre en fait. Et Celan, il le dit, c'est la mère de Celan qui disait ce qu'on a sur le poumon, on l'a sur la langue. Et Celan, il invente une poésie qu'on peut dire pneumatique, vraiment, avec ce qu'il appelle la renverse du souffle. Donc c'est très lié au corps. Donc ça, je peux dire que c'est un livre étape. Et après, peut-être ce qui relie un peu toutes ces lectures aujourd'hui, c'est quand même des auteurs et des autrices qui se sont donnés comme but, enfin comme utopie, de réinventer le langage à partir d'une catastrophe. Bon, qui, en ce qui concerne Celan, Barkman et Bernhardt, est la Shoah. Et comment est-ce qu'on écrit après ça? Comment on écrit après le nazisme? Et comment on nettoie le langage de tout ce qu'il a subi à travers cette idéologie et à travers ces années de nazisme. C'est-à-dire, le langage, c'est ce dont parle Klemperer dans la langue du Troisième Reich. C'est comment le langage est en réalité, déjà idéologiquement, dirigé idéologiquement.
En tout cas, à l'œuvre.
À l'œuvre, ouais. Puisque voilà, il y a des mots. C'est comme quand en France, on disait pas la guerre d'Algérie, on disait les événements d'Algérie. Bon, et le langage, il est toujours aujourd'hui aussi pollué par certaines choses. Il y a des expressions, d'ailleurs, qui nous font mal à entendre quotidiennement. Donc, le travail des poètes, le travail des écrivains, en tout cas ceux-là. Ça a été, alors là c'est extrême évidemment, puisque c'est après une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, comment est-ce qu'on réenvisage, en l'occurrence la langue allemande, et comment est-ce qu'à travers la poésie, on lui redonne sa liberté, on lui redonne son souffle. C'est tout le travail de Celan.
Et c'est le vaste programme qui nous attend.
Que soy ángel, cuando quemé mi halo, me ves como la miel, cuando me siento veneno, dices que me quieres a tu lado. Cuesta mirarte en silencio.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Nicolas Bouchaud, Marie Richeux.
Alors on entre dans ce moment, Nicolas Bouchaud, où vous avez choisi des textes pour nous. Le premier, c'est un texte d'Ingeborg Bachmann, née en 1926, morte en 1973. Le poème que vous avez choisi est extrait du recueil « Toute personne qui tombe a des ailes ». Des poèmes qui datent de 1942 à 1967, et vous allez les lire, ou le lire en tout cas ce poème, dans la traduction de l'allemand vers le français par Françoise Rétif. Est-ce que vous voulez dire un petit mot avant de lire le texte ?
Non.
Ok.
Je préfère lire.
Et alors, on lit.
Un poème qui date de 1964 et qui s'appelle « La bohème est au bord de la mer ». Si les maisons par ici sont vertes, je peux encore entrer dans une maison. Si les ponts ici sont intacts, je marche sur un bon fond. Si peine d'amour est à jamais perdue, je la perds ici de bon gré. Si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui vaut autant que moi. Si un mot ici touche à mes frontières, je le laisse y toucher. Si la bohème est encore au bord de la mer, de nouveau je crois aux mers. Et si je crois à la mer, alors j'ai espoir en la terre. Si c'est moi, c'est tout un chacun qui est autant que moi. Je ne veux plus rien pour moi, je veux toucher le fond. Au fond, c'est-à-dire en la mer, je retrouverai la bohème. Ayant touché le fond, je m'éveille paisiblement. Ressurgissant du fond, je sais maintenant et plus rien ne me perd. Venez à moi, vous tous, bohémiens, navigateurs, filles des ports et navires jamais ancrés. Ne voulez-vous pas être bohémiens, vous tous, illyriens, véronais et vénitiens, jouer ces comédies qui font rire et qui sont à pleurer? Et trompez-vous 100 fois, comme je me trompais et ne surmontais jamais les épreuves, et pourtant les ai surmontées chaque fois de nouveau. Comme les surmonta la bohème, et un beau jour reçut la grâce d'aller à la mer et maintenant se trouve au bord. Je touche encore aux frontières d'un mot et d'un autre pays. Je touche, fût-ce si peu, toujours plus à toutes les frontières. Un bohémien, un nomade qui n'a rien, que rien ne retient, n'ayant pour seul don, depuis la mer contestée, que de voir, pays de mon choix.
Et maintenant, vous voulez bien dire quelques mots, alors? La bohème est au bord de la mer, donc c'est un poème de 1964.
Ouais. Moi, j'ai lu d'abord Ingeborg Bachmann, j'ai lu son recueil de nouvelles, que j'avais trouvé magnifique, et puis j'ai lu son roman inachevé, je crois, Malina. Et puis ensuite, j'ai retrouvé Ingeborg Bachmann à travers Thomas Bernhard, qui l'admirait beaucoup, et évidemment Paul Celan, puisqu'ils étaient amants. Et bah, comment est-ce que non, ça m'intéresse. Comment vous le recevez, le poème? Est-ce que vous avez... Moi, j'ai l'impression qu'on rentre dans un paysage.
Ah bah oui, moi j'étais beaucoup là-dedans.
Voilà.
Après, c'est la première fois que je l'entends.
Oui.
Moi, j'étais très touchée aussi par l'idée de la frontière. La mer, c'est aussi l'espèce de...
C'est ça.
Comme ça, l'horizon, là. Puis voilà. Avec les mêmes... je dirais une sorte de parallèle entre le langage et ses limites.
C'est
et
ça.
Puis la mer,
il y a quelque chose de très délicat.
Très limite.
Oui.
J'ai vu, c'était comme petit à petit, j'avançais dans un paysage qui se composait.
C'est ça. Moi aussi,
c'est
j'ai cette impression.
C'est ça que je ferais comme commentaire de
oui,
texte, Nicolas
mais c'est
Bouchaud.
Ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Mais je l'ai choisi pour ça, en
ouais.
fait, parce que ça fait partie des... Enfin, comme une grande partie de la poésie, vous entrez dans un paysage
ouais.
que vous reconnaissez pas tout de suite, et donc vous cheminez avec dans ce paysage. Mmh. Il y a une sorte de marche mmh. à l'intérieur de ce mmh. paysage.
C'est petit à petit, en tout cas, ici.
Exactement. Après, oui, sur la frontière, c'est ce qui sépare et ce qui relie, quoi. Et c'est le lieu de la rencontre.
Vous en lisez beaucoup, de la poésie?
Ah oui, j'en ai toujours lu beaucoup, oui. Oui, oui. Enfin, beaucoup. J'en lis régulièrement.
Non, mais vous avez toujours su que ça existait. Par exemple, adolescent, jeune adulte, vous saviez que la poésie existait.
Ah ben, je savais, je la lisais. J'adorais, évidemment, Arthur Rimbaud. Et j'avais une passion pour T.S. Eliot aussi. J'aimais beaucoup.
Comment vous saviez que ça existait ?
La poésie ?
Ouais.
Plein de gens ne savent
pas que ça existe.
Par
l'école ?
Ouais. Il me semble que j'ai lu des poèmes de Baudelaire
c'est vrai, vous avez raison.
À l'école.
C'est vrai, je crois que je fais une différence entre savoir que ça existe par l'école et savoir que ça existe pour soi, être capable d'ouvrir un livre de poèmes et le faire pour soi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu différent.
Bah, oui, c'est un peu différent. Après, ça vient ou ça vient pas.
Ouais.
Mais en tout cas, j'ai eu la possibilité. Et puis chez moi, chez mes parents, il y avait des livres quand même. Donc, j'avais sous les yeux des livres et j'avais des livres de poésie. Après, j'aurais pu ne pas m'y intéresser plus que ça. Mais on m'en a en tout cas donné la possibilité. Donc, je pense que c'est comme ça que... Mais moi, je dirais l'école, hein, vraiment.
Ouais, tant mieux. Vous avez prononcé son nom, Paul Celan, plusieurs fois depuis le début de cette conversation, Nicolas Bouchot. On va écouter une archive d'un traducteur et germaniste qui s'appelle Jean-Pierre Lefebvre. Une archive de 2002. Il va parler du moment. Il va parler de Paul Celan.
L'œuvre entière de Celan peut être conçue comme une réponse, bien qu'elle ait commencé avant, mais comme une réponse à la fameuse formule d'Adorno, qui souvent d'ailleurs est réduite au strict minimum et dégagée de son contexte. Écrire un poème après Auschwitz, c'est une démarche barbare. C'est vite dit et ça ne rend pas absolument justice à ce qu'il avait dit vraiment, mais disons que ça a été compris quand même comme une invitation à ne plus faire de poésie, en tout cas pendant longtemps, à ne plus écrire de poésie. Et à cela, Celan répond non, au contraire. Non, au contraire, mais comme ça, dans cette voie-là.
Le poème est seul. Il est seul et en chemin. Celui qui l'écrit lui est simplement donné pour la route. Mais par cela même, ne voit-on pas que le poème, déjà ici, se tient dans la rencontre, dans le secret de la rencontre? Le poème veut aller vers un autre. Il a besoin de cet autre. Il en a besoin en face de lui. Il le recherche, il se promet à lui. Chaque chose, chaque être humain est, pour le poème qui a mis ainsi le cap sur l'autre, une figure de cet autre. L'attention que le poème tâche de porter à tout ce qui vient à sa rencontre, son sens plus aigu du détail, du contour, de la structure, de la couleur, mais aussi des frémissements, des allusions, tout cela, je crois, n'est pas une acquisition progressive de l'œil rivalisant ou allant de pair avec les performances chaque jour plus parfaites de la machine, c'est bien plutôt, rassemblant la mémoire de toutes nos dates, une concentration. L'attention, permettez-moi ici à l'exemple de Walter Benjamin de citer un mot de Malebranche, l'attention est la prière naturelle de l'âme. Le poème devient, à quelles conditions ? Le poème de quelqu'un qui toujours encore perçoit, qui est tourné vers ce qui apparaît, qui interroge cela qui apparaît et lui adresse la parole. Cela devient un dialogue.
Précis, donc c'est un discours qui est prononcé à l'occasion de la remise du prix Georg Büchner en 1960, qui est prononcé par le poète Paul Celan, Nicolas Bouchot.
Absolument.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce texte particulier de Paul Celan, qui n'est pas justement sa poésie, mais un discours sur ce qu'est le poème ?
Absolument. Bah, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il se demande lui-même quand il est en train d'écrire le discours. Et il pose la question à Bachmann dans une lettre. et il lui demande si elle pense que c'est possible d'avoir un discours sur sa propre pratique. Mais il le fait, il relève le défi avec le méridien, mais il le fait pas dans un discours argumenté, discursif, mais il le fait avec le langage de la poésie. Mmh. Et donc, d'abord, c'est un discours très étonnant parce qu'on a l'impression qu'il s'invente au fil des mots, ouais, au fil de son énonciation. Mmh.
Et, parce que c'est très vivant.
C'est très, très vivant. Ensuite, là, j'ai lu une partie simple du discours, il est plus obscur que ça.
Okay.
Mais quand on lit les brouillons du méridien, c'est très, très intéressant parce que c'est plus du tout obscur. Il a enlevé beaucoup de choses, Celan. Il faut imaginer un poète, donc Paul Celan, juif roumain, dont les parents sont morts en camp de concentration ou d'extermination, et qui, quelques années plus tard, vient recevoir un prix en Allemagne et se trouve face à des gens, puisque à ce moment-là, la dénazification, comme on dit, n'était pas vraiment entièrement faite, se trouve face à des gens qui, sans doute, au moment de la guerre et avant, ont adhéré au parti nazi. Et voilà donc un poète juif face à ces Allemands. Et il ne va rien dire de ça. Il écrit dans ses brouillons. Il parle du juif goitreux, d'Auschwitz, etc. Il ne le met pas dans le discours. Donc il mise sur l'indirect. Il mise sur l'indirect, il mise sur la transmission indirecte. Et il commence par leur dire, il commence par faire un commentaire sublime de Büchner, de l'œuvre de Büchner.
Oui, parce que le prix s'appelle Georg Büchner.
Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, quand vous recevez le prix, de parler de Büchner. Mm-mm. Mais Celan va chercher dans les pièces de Büchner ce qui lui semble représenter ou personnifier la poésie. Donc il le trouve chez Lucille, le personnage de Lucille, il le trouve évidemment dans Lenz, quand Lenz dit, quand Büchner dit, il lui était désagréable de ne pas pouvoir marcher sur la tête, donc là Celan nous dit, là c'est l'apparition de la poésie, ne pas pouvoir marcher sur la tête, parce que la poésie c'est marcher sur la tête, donc ça a à voir avec la folie, et vous avez le ciel en abîme, bon, toutes ces choses-là, je ne vais pas raconter tout le discours, mais il y a cette situation. Et il leur dit, vous voyez, je parle de Büchner, donc c'est une culture que j'ai partagée avec vous. Mm. C'est très très émouvant si on y pense. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit, et en plus c'est quelqu'un qui a décidé et qui a choisi de continuer à écrire sa poésie en allemand, qui était la langue que sa mère avait voulu qu'il apprenne. Et son père voulait qu'il apprenne l'hébreu. Mais la famille, et la mère de Celan, par exemple, fait vraiment partie de ce qu'on a appelé le mouvement, la Haskalah, c'est-à-dire le mouvement des Lumières, comment les Juifs se sont intégrés à la culture des Lumières et à la culture allemande.
Alors, avec tout ce que vous dites là, Nicolas Bouchaud, l'idée que le poème « cela est », il reprend beaucoup ce mot-là, « cela est », il n'arrête pas de dire « tendu vers la rencontre »,« tendu vers l'autre ».
Ouais. Mais ce qui est important, c'est pas le moment de la rencontre. Ce qui est important, c'est le geste du poème qui fait signe, simplement. C'est-à-dire que, mais ça c'est très intéressant, hein, même pour, je veux dire, pour le jeu, pour l'art dramatique, c'est, et je vais revenir un tout petit peu au poème de Bachmann, quand on disait on arrive dans un paysage qu'on reconnaît pas, parce que le texte ne fait pas référence à une réalité, à quelque chose repérable. Il se projette lui-même comme une réalité. Et donc, il faut porter attention à ce que le langage opère et pas à ce qu'il représente.
Notion fondamentale
de Celan.
De Celan.
C'est ce qu'il va faire dans toute sa poésie. Pour penser, et ça c'est le point très important, mais chez Bachmann aussi, hein, je veux dire qu'il a fait partie du groupe 47 en Allemagne, il y a vraiment chez eux la volonté de faire un énorme travail sur le langage pour le ce qu'on disait tout à l'heure, pour le dénazifier, pour lui redonner, donc les mots vont changer de sens aussi, et donc c'est très intéressant, et c'est aussi très intéressant pour c'est il faut penser un nouveau rapport entre les mots et les choses, entre les perceptions et les actes. Ça, c'est intéressant pour un acteur.
Ce qui est intéressant aussi, que j'ai noté dans le texte discours de Paul Celan, c'est l'idée de la concentration.
Alors, voilà.
La concentration, l'attention, qui est la prière naturelle.
C'est merveilleux, ça.
C'est très beau, parce que c'est à la fois celui qui écrit, celle ou celui qui lit, et aussi le poème qui produit ça. Et quand on lit la poésie de Paul Celan, ça fait ça. Ça fait que tout devient concentré.
Absolument. Mais vous voyez, là, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, parce que ça, c'est merveilleux. Et à quoi il oppose l'attention à la machine. C'est bizarre qu'il parle de ça dans son discours. Aux performances de plus en plus extraordinaires des machines, le poème impose une attention aux choses. Donc ça, c'est ce qu'on dit. Et sans doute que... Et dans le poème de Bachmann, c'est pareil. Ce que demande le poème, dans son surgissement, comme on dit, c'est une attention. Et c'est peut-être la principale chose qu'il demande. Une attention, c'est extraordinaire.
Ouais. Surtout qu'il le demande en même temps qu'il le crée.
Exactement.
Il le demande en même temps qu'il le crée.
Exactement. C'est pour ça que c'est vraiment... On pourrait parler de gestes plutôt. Quand on disait le poème va vers l'autre, ce qui est important, c'est de dessiner le geste que ça fait. C'est quoi? Comment, dans quelle disposition de corps on est quand on veut. Vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas peut-être le moment de la rencontre qui est le plus important.
C'est le chemin.
Ouais, c'est le chemin. Et c'est le chemin, exactement. Dont on aimerait peut-être ne pas spécialement voir la fin. Hein. Bon, ça, c'est l'histoire d'être en route, de se mettre en route. Mais je reviens sur ce truc qui est très beau de l'attention par rapport à la machine. Il y a, à mon avis, je me demande si... Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Gunther Anders. Et Gunther Anders, il a écrit un livre absolument bouleversant. Il a écrit 2 lettres au fils d'Eichmann. Et dans ces lettres, il développe... un de ses concepts, qui est le suivant. Lui, il part de la Shoah, mais aussi de la bombe atomique. Et Anders, il dit la chose suivante, c'est-à-dire que nous, et alors là, aujourd'hui, c'est pire qu'à son époque, nous avons fait tellement de progrès techniques, nous avons tellement... Enfin, quand on pense à ce qu'on peut faire, je ne fais pas un dessin, hein, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, enfin, quand on pense, on est des titans, on est capable de... Le problème, c'est que notre capacité de représentation est bien moindre que notre capacité à créer de plus en plus de possibilités en science. Mais sauf qu'on n'est pas capable... de voir ce que ça va produire. Et c'est ça dont parle Anders. Et cette capacité de représentation qui est beaucoup plus faible chez nous tous que ce qu'on peut inventer, puisqu'on ne sait pas ce qu'on invente va produire...
Ou détruire.
C'est bien sûr, est un vrai danger en réalité. Et on a besoin de représentation. Et si on a besoin de représentation... On a aussi besoin d'art, je veux dire. Des choses qui nous montrent pour qu'on comprenne nos échecs ou qu'on comprenne nos erreurs ou qu'on comprenne... Voilà.
Troisième choix, Thomas Bernhardt. C'est un texte de 1963 que vous avez choisi de lire et qui s'appelle « Gel ». Est-ce que vous voulez l'introduire ou est-ce que vous voulez le lire immédiatement, Nicolas Bouchaud ?
Non, on peut dire que c'est le premier roman de Bernhardt. Le premier roman de Bernhardt, peut-être juste dire avant de lire l'extrait que c'est un étudiant en médecine qui est chargé par un de ses patrons de faire une enquête sur le frère de celui-ci, donc du patron, et ce frère est un peintre qui s'appelle Strauss et qui, depuis la fin de la guerre, s'est complètement retiré du monde. Enfin, il vit comme un ermite dans un village de la haute montagne autrichienne, donc là on a vraiment tout le décor de Thomas Bernhardt. Et le roman, c'est simplement un rapport quotidien de cette enquête, Voilà, donc le narrateur, c'est le jeune étudiant en médecine.
En médecine,
mais comme
d'enquête.
Toujours chez Bernhardt, ce n'est pas le narrateur qui est le personnage principal. Le narrateur est souvent là pour introduire le protagoniste qui, là, est le peintre. Et donc, qui, comme dès son premier roman, le roman est fait de monologues complètement hallucinés de ce peintre, fulgurant, voilà, tragique, absurde, drôle, voilà. Sauf que là, l'extrait que je vais lire, c'est un petit récit à l'intérieur du roman.
On y va.
Et ça s'appelle « L'histoire du vagabond ». Dans la forêt de Mélèze, il a rencontré un vagabond. Le peintre s'est effrayé, il n'avait pas du tout aperçu le vagabond, mais avait buté contre lui. Pensant que c'était un homme mort de froid, il avait eu un mouvement de recul. D'après l'habillement, il avait conclu que c'était quelqu'un d'étranger au village. Il portait un pantalon rayé, dit le peintre, comme en portent les gens de cirque et surtout les directeurs de cirque. J'ai vu que l'homme était mort et j'ai tenté de le retourner avec ma canne pour voir son visage, car il était couché sur le ventre. Mais à peine l'eus-je touché avec mon bâton que le mort a poussé un cri et a sauté sur ses pieds. « Eh oh !» a dit le vagabond. « J'ai simplement fait le mort pour voir comment réagit un homme qui en trouve un autre couché sur son chemin en pleine forêt et en plein hiver. » En disant cela, il s'était mis debout et avait lissé son pantalon. C'était un homme d'une certaine prestance, mais manifestement déchu. Je lui ai fait remarquer que ce n'était pas des plaisanteries à faire, qu'on ne simulait pas la mort, que cette plaisanterie était trop facile, du genre de celle que font les gosses pour effrayer leurs parents. Imaginez que sous le coup de l'émotion, j'ai eu une attaque. « Quand j'ai entendu venir quelqu'un, répondit le vagabond, je me suis couché sur le chemin, ça n'était qu'une expérience. »« Une expérience ?» avait répété le peintre. « Oui, parfaitement, une expérience. » Elle s'est d'ailleurs déroulée exactement comme je l'avais prévu. J'ai écouté chacun de vos pas, vous marchez comme si vous aviez des sabots de cerf. En vous écoutant approcher, j'ai eu une vision extraordinaire, une vision tout à fait fantastique. J'ai cru qu'un cerf venait me rendre visite. Il faut accepter ça comme une pensée poétique, rien d'autre. Je comprends. Puis le peintre avait voulu savoir quelle était sa profession. Et le vagabond répondit « Je suis propriétaire d'un théâtre ambulant. »
Alors, moi, contrairement à vous, Nicolas Bouchaud, je ne connais pas bien l'œuvre de Thomas Bernhardt. Elle me fait de l'œil depuis des années, voilà, je le découvre ici et là grâce à des gens comme vous qui le portent au théâtre. Mais à chaque fois que j'entends des textes de Thomas Bernhardt, et ça se confirme aujourd'hui, je ris. Il y a quelque chose de très jubilatoire pour moi dans l'écoute des textes de Bernhardt, qu'on décrit souvent comme sombre quand même. Et j'ai l'impression que c'est toujours, je sais pas, les gens le trouvent déprimant, sombre, terrible. Moi, je le trouve super drôle.
Non, pas du tout. Il n'est pas du tout sombre ni terrible. Non, vraiment pas. Non, non, c'est quelqu'un de très drôle, Bernhardt. C'est très drôle. Il y a dans tous ses romans, quasiment, on rit énormément.
Là, c'est très drôle. Et oh, par exemple.
Bah oui, bien sûr.
C'est très drôle.
Oui, c'est des blagues. C'est des blagues. Non, non, on rit beaucoup chez Bernhardt. En plus, c'est lui-même qui le dit. Il a cette capacité, bon, qui moi me touche énormément. C'est-à-dire que il dit Bernhardt. Bon, bah, dans le moment le plus tragique de l'existence de quelqu'un, il y a quand même toujours quelque chose de drôle. Mais l'inverse est vrai aussi. Donc, il joue constamment sur ses contraires, Bernhardt. Il joue toujours sur les contraires. Là, l'extrait que j'ai lu n'est pas très représentatif de son écriture, qui, en général, est faite de... C'est ce dont je parlais au début sur le protagoniste principal, le Strauss, le peintre. C'est, en général, fait de longs monologues hallucinés et hallucinants, parce qu'il a, il a cette façon d'écrire Bernhardt, c'est-à-dire que... il voudrait penser plus que ce que le personnage pourrait penser. Il fait exploser quelque chose. D'ailleurs, c'est une écriture à certains moments tout à fait explosive, donc jubilatoire parce que pleine d'énergie pour quelqu'un quand même qui ne pouvait pas à peine respirer, Thomas Bernhardt. Et il y a quelque chose dans ses livres d'une vitalité y compris quand elle est désespérée, elle est drôle. Donc ça, c'est... Bon, moi, ça me touche énormément, ça. Là, dans cet extrait, il y a quelque chose qui me... J'adore cette histoire du vagabond, parce qu'après, elle continue, pas très longtemps, mais donc il est propriétaire, ce gars. Mais on ne sait pas si c'est vrai.
Ah oui.
Mais non, parce qu'il le rencontre en pleine forêt. Bon. Il est propriétaire. Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Mais le type s'en va très vite à la fin, presque en courant. Il y a comme ça. Ça pourrait être un rêve. Il est directeur d'un théâtre ambulant et puis bon voilà. Et il dit mais je fais des tours de magie aussi. Mais en fait maintenant, je préfère maintenant jouer au théâtre plutôt que de faire des tours de magie. Et après, on retrouve Thomas Bernard, même si je trouve que les spectateurs de théâtre sont complètement crétins, mais les acteurs qui jouent au théâtre sont encore plus crétins que les spectateurs. Enfin, là, il repart dans un truc plus identifiable de
l'écriture. Comment vous avez découvert Bernard ? Comment il est arrivé dans votre vie ?
Je crois que c'est le père d'une amie qui s'appelle Véronique Timsit, qui nous a fait lire Thomas Bernard pour la première fois. Peut-être je me trompe, mais je crois que c'est ça. Par contre, je me souviens très bien du premier roman que j'ai lu, qui est Le Naufragé. Voilà. Et donc ça, c'est vers l'âge de 19 ans.
Ah oui.
Oui. Non, je pense que j'ai quasiment tout lu de Thomas Bernard. Mais j'aime bien là ce personnage de complètement paumé, on ne sait pas vraiment s'il est directeur de cirque, magicien ou acteur.
Vagabond, en tout cas.
Voilà, et j'aime bien ce truc parce que Bernard, il a une détestation totale de
pas mal de choses, si j'ai bien compris.
Oui, mais surtout de l'art officiel autrichien. C'est-à-dire, il a une détestation de la culture quand elle se drape dans sa grandiloquence. Par contre, il a un amour total, et c'est un mot qu'on n'emploie plus mais que j'aime bien, des saltimbanques, des bouffons.
Et il le fait apparaître ici.
Ouais.
On va aller vers le cinquième de vos choix, grâce à une archive de Tom Bishop qui parle de Samuel Beckett et du moment où Beckett écrit en français.
Il s'est mis à écrire en français. C'est pas rien de changer de langue pour un écrivain. Et dans l'espace de 7-8 ans, il va écrire en langue française ses plus grandes œuvres, certainement les œuvres les plus connues, la trilogie romanesque, Molloy, Malone, meurt, l'innommable, En attendant Godot, fin de partie, texte pour rien, des nouvelles, enfin une créativité inouïe dans très très peu de temps, tout ça en langue française. Et à partir de là, et surtout avec L'Innommable, qui est un livre remarquable, peut-être son plus grand livre, et qui commence par une interrogation sur l'être, où maintenant, qui maintenant, quand maintenant, et qui se termine par ce « je vais continuer » qui est énorme, énorme. Avec cela, néanmoins, Beckett s'est trouvé acculé dans un cul-de-sac, où il ne pouvait plus écrire, il ne savait plus écrire, et à ce moment-là, il commence à se traduire pour se distraire, dit-il. Enfin, pour faire autre chose que de créer.
La voix reprend. Elle se reprend à essayer. Il ne faut pas attendre qu'il n'y en ait plus de voix, qu'il n'en reste plus que le noyau de murmures, de cris lointains. Il faut vite essayer, avec les mots qui restent. Essayer quoi ? Je ne sais plus. Ça ne fait rien. Je ne l'ai jamais su. Essayer qu'il me porte dans mon histoire, les mots qui restent. Ma vieille histoire, que j'ai oubliée, loin d'ici, à travers le bruit, à travers la porte, dans le silence. Ça doit être ça. C'est trop tard. C'est peut-être trop tard. C'est peut-être déjà fait. Comment le savoir ? Je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. C'est peut-être la porte, je suis peut-être devant la porte. C'est peut-être un rêve, ça m'étonnerait. Un silence de rêve, plein de murmures, je ne sais pas. Ce sont des mots, ne jamais me réveiller, ce sont des mots, il n'y a que ça, il faut continuer, c'est tout ce que je sais. Il faut continuer, je ne peux pas continuer. Il faut continuer. Je vais donc continuer. Il faut dire des mots tant qu'il y en a. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent « étrange peine, étrange faute ». Il faut continuer. C'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit. Ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait si elle s'ouvre. Ça va être moi. Ça va être le silence. Là où je suis, je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer.
Donc, dans l'archive qu'on faisait entendre juste avant votre lecture, Nicolas Bouchaud, Tom Bishop parlait de cette fin, de l'innommable, paru aux éditions de Minuit en 1953. Oui. Je vais continuer. Ça me fait penser au tout début de la conversation, enfin, quand Beckett dit les. Enfin, quand la voix écrite par Beckett dit les, que les mots l'ont peut-être dit.
Ouais.
On a commencé par parler de la matérialité, ouais, de la potentialité du langage, de qu'est-ce ouais que ça fait les mots aux êtres, au monde, etc. Ouais. On a vraiment l'impression que là, dans cette fin, c'est, ouais, c'est ça qui est à l'œuvre. Et en même temps, c'est tout le temps incertain.
C'est ça. C'est
peut-être. Exact. Je suis pas sûre. Peut-être ça va ouvrir la porte sur mon histoire, mais peut-être pas.
Incertain et presque d'une... Comment on pourrait appeler ça ? C'est complètement dégraissé de tout, évidemment, de tout récit, mais de toute description. D'ailleurs, c'est le personnage de l'innommable, il est immobile, il est incapable de bouger, incapable de parler et de ne pas parler. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de créature, en fait. C'est un trou noir. Il n'a pas de nom, il dit « je », et incapable de faire le moindre mouvement. Et il parle. Et c'est... Ce qui est magnifique, c'est le langage en tant qu'il pourrait toujours se casser, s'arrêter. Mm. Et en même temps, je ne peux pas continuer, il
et
faut continuer.
Continuer.
Et donc, on est presque dans un livre très étrange. On dirait que c'est presque l'inconscient qui est écrit. C'était, on dirait
ça parle, ouais.
Que ça parle, voilà. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Moi, j'ai adoré tout de suite Beckett, mais à travers les pièces, dès que j'ai commencé à faire du théâtre, je voulais jouer que Beckett.
Pourquoi ?
Je sais pas. Parce que il y a comme dans Bernard, d'ailleurs, parce que Bernard en parle aussi de Beckett comme une sorte de modèle. Enfin, en tout cas, il a de l'admiration pour Beckett, évidemment. J'adorais ça parce qu'évidemment je trouvais ça tout à fait pas narratif ou figuratif et que je trouvais ça surtout très très drôle. Et fin de partie en attendant Godot, c'est vraiment très très drôle. Et en même temps bouleversant comme l'est l'innommable parce que c'est presque à chaque fois des êtres totalement à nu. Et ce qui est fascinant dans l'innommable, parce que c'est un roman qui est assez long quand même. Là on lit un tout petit extrait, mais quand on le lit... Quand on fait l'expérience de le lire en entier, on est assez épuisé comme lecteur. Hein, mais c'est fascinant de voir cette langue qui pourrait toujours s'arrêter, qui malgré tout continue, et qui est vraiment réduite à son expression la plus simple. Il n'y a pas un terme compliqué dans l'innommable. C'est vraiment... c'est asséché. Il y a quelque chose d'asséché. Voilà, qui est tout à fait étonnant et merveilleux.
Ce qui finit quand même par dresser un portrait de vous en tant que lecteur, Nicolas Bouchaud, très viscéralement attaché à la langue, quoi, aux mots. Enfin, je vais terminer avec ce texte-là de Beckett. C'est au-delà de... Au-delà des histoires, j'ai même dit... En commençant, j'ai dit oui, un outil de pensée, mais... C'est presque plus sec qu'un outil de pensée, quoi.
Oui, tout à fait.
Mais
ouais.
C'est très riche, hein, je ne dis pas asséché.
Ce qui me touche beaucoup et ce qui m'intéresse, mais parce que je fais des ponts avec, avec une pratique aussi, c'est quand la langue... j'aime beaucoup la belle langue, ce n'est pas le problème. J'aime beaucoup le début de La Princesse de Clèves, mais...
Ça s'est dit.
Voilà. Mais ça m'intéresse quand la langue devient un geste. Voilà.
Parce qu'en fait, on aura beaucoup parlé de gestes, oui. De chemin, de paysage, oui. Et de corps.
Oui, parce que le geste, il n'est jamais subordonné à un but à atteindre, il est un geste. Mm. Et si vous en trouvez la singularité, vous en trouvez potentiellement le facteur d'étonnement pour des gens qui écoutent ou qui regardent. Et voilà, et c'est quelque chose qui n'est pas... Donc un geste, c'est aussi quelque chose qui n'est pas... Je vais parler au tout début de... C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le prêt-à-penser ou ce qu'on pense qu'il faudrait faire, par exemple, pas seulement dans la vie, mais dans une activité artistique, c'est-à-dire où quand on est sur scène et quand on joue, le pire, c'est quand on dit... oui, je pense que le personnage devrait être comme ça. Enfin, d'ailleurs, il est comme ça. Et d'ailleurs, je vais jouer qu'il est comme ça.
Bon. Mais ça renvoie aussi, puisqu'on a parlé de Shakespeare, à cette phrase sur laquelle vous vous arrêtez. Dire ce que l'on ressent et pas ce qu'il faut
voilà.
Dire.
Voilà.
Ne pas dire ce qu'il faut dire.
C'est exactement la brèche entre le passé et le futur dont parle Hannah Arendt dans ce
texte que vous n'aurez pas le temps de lire.
Exactement, dans sa préface à La crise de la culture.
Mais c'est pas grave, on le met dans la bibliothèque et les gens vont le sortir.
Mais c'est très bien, il faut le lire, voilà. Il faut la lire cette préface. C'est la brèche entre le passé et le futur et c'est l'endroit pour Arendt où on peut penser. On peut penser librement. Voilà, et donc c'est exactement ce que dit c'est Edgar à la fin du Roi Lear. Dire ce qu'on ressent et pas ce qu'il faut penser.
Et pas ce qu'il faut dire.
Et pas ce qu'il faut dire. Et voilà. Et je trouve que c'est important, et c'est important en ce moment, où on est quand même un peu bombardé de plein de choses. Et c'est pas évident de trouver la brèche dans laquelle on pourrait penser contre le prêt-à-penser. Et voilà. Et de façon... À déclencher des choses, à produire des déclics. On a besoin de déclics de la pensée quand même.
Merci beaucoup Nicolas Bouchaud d'avoir ouvert votre bibliothèque pour le Book Club de
Merci
France Culture.
Merci à vous.
Cherche-la, on dit que dans le chant des oiseaux, si tu as peur d'eux,
tu sais que dans le chant des oiseaux,
si
au son, aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meige. À la réalisation, c'était Anna Holweck. Vous pouvez retrouver tous les textes évoqués et commentés par Nicolas Bouchaud avec leurs éditions et leurs traducteurs et traductrices quand j'ai pas eu le temps de le dire sur le site franceculture.fr à la page du Book Club. Sur cette même page, vous pouvez retrouver tous nos portraits de bibliothèque. Un grand merci à l'équipe du Book Club.